explication par rapport à cela?
Alors, je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas le sujet.
Oui.
Et parce qu'il faut au moins une étude encore pour parler de ça. J'ai un tout petit peu répondu dans mon exposé en disant que la Bible n'est pas un livre de science et que la Bible nous donne des pistes de réflexion ou des schémas, des modèles, mais qu'il faut surtout se garder de prendre la Bible comme un livre de science. Donc, puisque tu parles de la création, certains croyants vont dire que la création s'est faite en 7 jours, 7 jours de 24 heures. Personnellement, j'ai du mal à le comprendre puisque les jours n'existaient pas, les heures n'existaient pas. Donc, bon. Donc après, certains comprennent par la science que les choses se sont faites sur des laps de temps assez longs. Et donc certains vont dire 6000. Pourquoi 6000?
Puisqu'un jour, pour Dieu, il représente 1000 ans.
Enfin, oui, mais ça, c'est quelque chose qui a été écrit bien après. Donc, j'allais dire, pour moi, ça, c'est utiliser la Bible comme il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est-à-dire en faire un livre de calcul, de science et de... Voilà. Donc, la Bible, ce que je retiens, moi, c'est que la création s'est faite de façon progressive. On a parlé de la création dans le sens de l'apparition du monde, le Big Bang et tout ça, et de l'univers et tout, qui a été très progressif, qui a duré, donc c'était, les scientifiques le datent d'environ 14 milliards d'années. Et puis après, ce que nous décrit la Bible au niveau de la Terre, sur la Terre, j'allais dire une fois la Terre formée, c'est aussi quelque chose de progressif. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas le premier jour, Dieu a fait les plantes, les animaux, les hommes et tout le monde, et pouf, comme ça, dans un claquement de doigts. La Bible nous décrit un processus. Voilà. Moi, je retiens ça de la Bible. C'est que la Bible décrit l'apparition de la vie sur Terre, l'apparition déjà de la formation de la Terre avec la mer la Terre qui apparaît de la mer, etc. La séparation jour-nuit, etc. Comme étant quelque chose de progressif, avec l'apparition d'abord des végétaux, puis de forme animale, puis à la fin de la chaîne, j'allais dire, de l'humanité. Voilà, la Bible parle de ça. Maintenant, essayer de faire correspondre ça à quelque chose que la science nous enseigne, c'est pas l'objectif, c'est pas le but de la Bible, c'est pas comme ça qu'elle nous parle, et c'est comme ça qu'on a fait des erreurs dans l'histoire monumentale. J'ai parlé de Copernic tout à l'heure. Copernic a été condamné par l'Église de son temps parce qu'il osait dire que la Terre n'était pas au centre du monde, alors que si Dieu a créé la Terre et qu'il a mis les humains dessus, forcément c'est la Terre le plus important dans l'univers, et donc forcément la Terre est au centre de l'univers et c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. D'ailleurs on le voit, regarde, il se lève là-bas à l'est et il se couche à l'ouest, c'est bien visible quand même. Donc la science confirme, en fait pas du tout. Je veux dire, c'était des méthodes d'interprétation totalement erronées. Et soyons prudents de ne pas donner le bâton pour nous faire battre aux scientifiques avec des interprétations totalement farfelues, c'est-à-dire en utilisant la Bible pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un livre de science. La Bible nous donne des pistes. Et ces pistes, autant dans la création de l'univers que dans la création de l'humanité, de la vie sur Terre, etc., là, on a des pistes solides. Après, pour aller plus loin, il faut faire une étude. Pour dire, Joël, est-ce que tu crois en l'évolution ou est-ce que tu ne crois pas en l'évolution? Je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais, en tout cas, le sujet, j'ai un peu répondu quand même à ta question, c'est qu'effectivement, la Bible décrit une création progressive. Voilà. Une autre question?
Allô? Oui. Tu parles de l'état de la science par rapport à la physique quantique. Est-ce que le mur de Planck, ça varie ou pas?
Le mur de Planck, quoi? Ça varie.
Le mur de Planck, si tu veux, tu dis que...
Non, c'est... non, non.
La physique quantique bute aussi dessus, de la même manière.
Oui, quand j'ai parlé de physique, je n'ai pas employé le mot physique quantique, mais c'est toutes ces dimensions-là, oui, effectivement, qui ont amené à la découverte du mur de Planck et qui font qu'au-delà du mur de Planck, ça ne marche plus. L'outil ne fonctionne plus, donc c'est vide, donc il n'y a rien. Donc après, le croyant va dire effectivement, c'est quand même un peu logique qu'il y ait Dieu. Et l'incroyant qui veut rester incroyant, ben, il va dire non, mais la science ne sait pas encore, mais la science dans l'avenir le montrera. Ok, ben voilà, très bien, pas de souci.
Mais je te le demandais parce que comme la physique quantique, c'est un monde de virtualité quand même.
Oui.
On n'est plus dans la matière solide.
Donc alors, on est en partie dans la matière solide, mais disons que la matière solide, par la physique quantique, on sait que c'est très relatif. C'est-à-dire que tout ce qui est lumière, tout ce qui est particules existantes, les photons, les électrons, etc., sont à la fois des particules, mais des ondes. Et, enfin, c'est, donc là, effectivement, mais c'est très, très compliqué. Il faut s'adresser à des gens.
Non, mais ils progressent pas, je veux dire.
Alors, si, il y a toujours des progrès. Mais le mur de Planck,
c'est
une limite de toute façon. Une autre question ? Si je peux répondre, hein, parce que je ne suis pas non plus un hyper grand connaisseur.
Dans Matthieu, il y a 14 générations d'Abraham à David, puis encore après jusqu'à la déportation.
Oui.
Quand on dit 14 générations, c'est combien ?
Alors, on est totalement hors sujet, là. On est totalement hors sujet.
Non, parce que c'est peut-être pour ça que les 1000 ans, les 4000 ans...
Oui, alors si on regarde les générations...
Dans Luc, ça remonte à Adam. Alors,
si on regarde les générations et qu'on les prend à la lettre, il y a des anomalies. Mais si on prend dans la façon dont les Juifs faisaient les générations, etc., à la fois la génération de Matthieu et la génération de Luc, elles sont tout à fait réalistes. Voilà. La génération qui est décrite dans Matthieu serait plutôt celle, si je me souviens bien, de la lignée vis-à-vis de Joseph, et chez Luc serait plutôt la lignée de Marie. Mais bon, on est un peu hors de... Mais effectivement, la Bible, dans ce sens-là, n'est pas un livre scientifique, mais en même temps, les généalogies sont relativement fiables, même s'il y a parfois des inversions, ou parfois, quand la Bible décrit des généalogies, elle saute une génération. Ou alors elle va parler d'un oncle au lieu du père, etc. Parce que dans le judaïsme, quand le père mourait ou autre, ben, c'était l'oncle qui prenait, enfin, etc. Donc les anomalies apparentes n'en sont pas, sont tout à fait explicables.
Parce que scientifiquement, dans Luc, ils remontent carrément jusqu'à Adam.
Oui.
C'est énorme. Quoi. Donc là, eux, les scientifiques peuvent dire vous croyez à ça.
Mais là, voilà. Mais là, on retombe un petit peu dans la question de tout à l'heure sur justement les histoires de d'évolution, de la création d'Adam. Est-ce que Adam a vraiment existé ou est-ce que Adam c'est une figure, est-ce que, etc. Bon, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, ce que je sais, ce que je peux dire là sans aller plus loin, c'est que la Bible est fiable dans son enseignement, dans ce qu'elle veut nous transmettre. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un Adam, premier pêcheur, etc. Et que donc, il y a, comme Farid le décrivait ce matin, un nouvel Adam qui est l'homme qui nous a racheté du péché, etc. Quoi. Donc, tout cet enseignement-là est bon. Après, voilà, c'est une autre étude pour vraiment approfondir sur quels sont les enjeux de croire qu'il y a eu un premier Adam ou pas, etc. Moi, je crois que la Bible enseigne qu'il y a eu un premier Adam et une Ève, etc. Mais ne faisons surtout pas, voilà, de la Bible un livre de science. C'est un livre de sens. C'est joli ce que je viens de dire. J'ai jamais remarqué. La Bible n'est pas un livre de science, c'est un livre de sens. C'est très joli. Je ne l'avais jamais entendu. Une autre question.
Je veux revenir sur la notion du rien et du tout.
Oui.
Quand on dit que avant le commencement... La science dit qu'avant le commencement, donc avant le Big Bang, c'est le néant, c'est le rien. Et on sait bien que le rien ne peut pas produire le tout.
Oui.
Mais, et qu'un objet...
Je peux peut-être préciser ma pensée là-dessus.
C'est ça.
Quand la science dit avant le mur de Planck, il n'y a rien, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a rien qu'elle ne puisse connaître en tant que science. Mais s'il existe quelque chose d'une autre nature, par exemple Dieu qui est esprit, voilà, elle ne peut pas dire Dieu n'existe pas. La seule chose qu'elle peut dire, c'est je ne retrouve rien ou je ne peux pas passer parce que ça bloque. Après, je ne peux plus rien voir, plus rien expliquer de ce que je peux voir. C'est un petit peu, pour donner un exemple, c'est comme si mes yeux vont me permettre de te connaître, toi que je vois là. Je vais voir que tu es blonde, que tu as les cheveux longs, que tu portes des lunettes, que tu es, etc., etc. Mais si je n'ai pas d'oreille, quand tu parles, je vais dire non, il n'y a rien. Parce que je n'ai pas l'outil pour comprendre l'audition, puisque je n'ai pas d'oreille. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc pour moi, il n'y a rien. C'est-à-dire tu bouges la bouche, mais je n'entends rien, donc il n'y a rien. Alors que quelqu'un qui va avoir des oreilles va dire si, 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 mais il y a quelque chose. Et moi, je vais dire, mais non, il n'y a rien. Elle bouge la bouche, c'est tout, mais il n'y a rien. Je vois bien qu'il n'y a rien. Je la regarde, je la vois, je la... Tu comprends ? Donc, la science ne peut dire qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien de ce qu'elle voit, de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle peut mesurer, de ce qu'elle peut étudier. Mais si autre chose... c'est pour ça que j'ai un peu décrit Dieu tout à l'heure comme le tout autre. Si le tout autre existe... Eh bien, peut-être que ce n'est pas la science qui va nous le révéler, parce que autant j'ai dit la Bible n'est pas un livre de science, autant la science n'est pas un livre de sens. Là, c'est autre chose. Dieu nous a donné d'autres outils que l'intellect et que l'abstraction pour le rencontrer. Il nous a donné un esprit.
Oui, mais est-ce que de l'esprit peut naître la matière ? Non. L'esprit, c'est l'esprit.
Donc, d'accord.
Tu vois ce que je
alors,
veux dire ?
Alors, oui, je comprends ça, ta question. Alors, en tout cas, parce ce qu'on peut dire, c'est que de rien ne peut pas naître quelque chose qui existe.
C'est ça.
Voilà. Donc, il faut, logiquement, si on est finaliste, il faut qu'il y ait quelque chose avant. Ce quelque chose, on l'appelle Dieu, et Dieu se révèle comme étant esprit. Donc, mais l'esprit, c'est quoi ? L'esprit, c'est une énergie. C'est, après, parler
alors,
de l'esprit, c'est
justement,
compliqué.
Justement, on peut s'appuyer sur... la théorie de la relativité avec la célérité.
Voilà.
Donc, avec un ralentissement, la masse apparaît.
Voilà.
Mais, pourquoi ils n'arrivent pas à le prouver, ça ?
Ben parce qu'il y a le mur de Planck et que ça bloque, qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, qu'ils peuvent aller jusqu'à un certain niveau et pas plus loin. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, Romain, quand on pense que Paul a écrit ça il y a 2000 ans, quoi, avec la science qu'il avait, c'était quand même pas, on était loin du mur de Planck. Hein. Et quand il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. J'aime beaucoup quand il dit sa puissance éternelle. C'est-à-dire que un esprit a de la force. Un esprit, c'est difficile de décrire un esprit, parce que je n'ai jamais vu ni mon esprit, ni votre esprit, ni quoi que ce soit. Mais un esprit, ce n'est pas rien. L'esprit, c'est une personnalité. Ça, c'est l'autre étude que je ferai sur la nature de Dieu. Donc, mais on voit qu'un esprit, c'est une personne, une personnalité. Donc, il y a de l'énergie, il y a de la vie. La vie, ce n'est pas qu'un cœur qui bat ou que des cellules qui fonctionnent. La vie existe en dehors du physique. C'est l'esprit. Et donc, il y a une énergie. Et cette énergie de Dieu qui est incommensurable, grâce à son énergie, il a dit que la lumière soit. Enfin, c'est une façon d'expliquer les choses de la Bible. Pour notre petite compréhension, il a dit que la lumière soit et pouf, ça, voilà. Mais c'est pas venu de rien. Donc effectivement, un esprit qui est quelque chose d'invisible, j'allais dire, à tous les sens du terme, c'est-à-dire autant aux yeux qu'au microscope, qu'au calcul, etc. Un esprit, la science actuelle ne peut pas dire ce que c'est. Elle peut dire, la science ne peut dire que les effets quelque part de l'esprit sur le cerveau. Notre esprit est lié au cerveau. Avec l'IRM, on arrive à voir ce qui fonctionne dans le cerveau, mais on voit plus les effets de l'esprit que l'esprit qu'on ne voit pas. Donc, mais l'esprit, c'est une réalité. Et l'esprit de Dieu étant une réalité, il a une puissance éternelle. Et je pense que toute l'énergie qu'il a mis dans la création n'est rien par rapport à qui il est vraiment. C'est ce que nous dit ce verset-là.
D'ailleurs, l'esprit de Dieu, quand nous le recevons, nous ressentons bien que c'est une énergie.
Oui, c'est vrai.
On le vit.
On peut sentir une chaleur, on peut tomber par terre, on peut avoir une douceur, on peut avoir...
Ça se matérialise.
Il y a une matérialisation, en tout cas une perception. Après, ce que tu dis là, quand tu dis matérialiser, c'est très intéressant. Parce que reprenons la naissance de Jésus, la fécondation, j'allais dire la conception de Jésus. Regardons la conception de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu visiter Marie et qui a matérialisé là un enfant. Ce qui est complètement incroyable, quoi. Donc voilà, l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut là. Et heureusement, il n'y a pas eu besoin d'un Big Bang là, parce que Marie, il aurait fallu. Ça a été, voilà. Voilà. Une question, encore oui. Une question.
Oui.
Bien sûr, bien sûr, mais c'est difficile à comprendre. Mais justement, ce genre d'enseignement d'aujourd'hui nous montre que, ben finalement, même si on creuse, c'est pas aussi imbécile que ça, c'est pas aussi improbable que ça, et que pour moi, c'est même plutôt plus probable, et qu'il faut moins de foi pour croire en l'existence d'un Dieu qu'il ne faut de foi pour croire que le tout vient du rien. Il faut une grande foi pour être athée. Il faut une grande foi pour être athée. Une question.
Moi, j'ai une question.
On essaie de rester dans le sujet. On t'entend.
Oui. De la part d'un croyant, pas oui. le scientifique ou quoi. La science, les calculs, la physique quantique, les mathématiques, tout ça. Est-ce que ça vient de l'arbre de vie ou est-ce que ça vient de l'arbre de la connaissance? Si ça vient de l'arbre de la connaissance, est-ce que c'est pas un peu normal que ça ne puisse pas prouver Dieu? Est-ce que c'est pas logique?
Alors, je ne répondrai pas comme ça. Pour moi, c'est un attribut de Dieu que Dieu a donné à l'homme. Parce que Dieu a donné à l'homme le désir et le pouvoir de chercher et de trouver. Vous allez m'aider à retrouver ce verset qui dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Et qui, enfin bon, Dieu, si tu veux, Dieu a caché des choses pour qu'on les cherche. Donc la curiosité, c'est un don de Dieu. L'envie de connaître et de comprendre, c'est un don de Dieu. Donc je ne sais pas si tu le mets dans l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en tout cas, pour moi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par définition, c'est un arbre plutôt moral. Puisque le bien et le mal, c'est une notion morale, ce n'est pas une notion scientifique. Alors que... creuser la science, etc. Oui, c'est la volonté de Dieu. Et ce qui nous limite, ce n'est pas que Dieu veut nous limiter, c'est que nous sommes limités et que on n'a pas les bons instruments pour aller jusqu'au bout dans notre réflexion. Le bon instrument ensuite, c'est l'esprit. Et personne ne rencontrera jamais Dieu par un raisonnement intellectuel ou une démonstration scientifique. Il faudra, à un moment ou à un autre, même si on le voit, la science peut quand même nous laisser titiller, enfin réfléchir que peut-être quand même Dieu existe, que ce n'est pas si bête que ça, il y a toujours le pas de foi de dire « Ok, j'accepte de croire de, et donc de m'adresser à ce Dieu et donc d'entrer en contact par mon esprit avec l'esprit de Dieu. »
Oui.
Au jardin. S'il n'y avait pas eu la chute, est-ce qu'il y aurait eu des Einstein, des E égale MC2, tout ça? Est-ce que ça aurait existé tout
oui.
ça sans la chute?
Oui, oui, définitivement oui. Oui, parce que Dieu nous a mis sur terre pour ça. Dieu nous a mis sur terre pour grandir, pour explorer, pour nous développer. Par exemple, le premier acte de science, c'est Dieu qui l'impose à l'homme. Dieu va dire... donne des noms aux animaux. Et le fait de donner un nom, c'est le premier acte de la science. Quand on découvre quelque chose de nouveau, on lui donne un nom. Le premier acte de science, c'est de nommer la chose. Et après, on va nommer comment elle est, à quoi elle peut servir, etc. Donc oui, Dieu a donné la science à l'homme. La science ne vient pas de l'orgueil de l'homme qui veut... C'est pas une tour de Babel. La science, c'est vraiment quelque chose de bon, de beau, et c'est Dieu qui veut la science, qui nous permet de... C'est pour ça qu'il y a énormément de croyants, de scientifiques qui sont des croyants et qui sont des adorateurs de Dieu. Parce que quand on regarde, c'est ce que Paul dit, quand on regarde la création, Et étudier la création, c'est la science. Étudier la création, tu découvres la beauté du créateur. Alors, tu ne vas peut-être pas l'appeler beauté du créateur. Tu vas dire la nature, tu vas dire la terre-mère, hein, Gaïa, tu vas dire je ne sais pas quoi. Mais tu vas dire waouh. Voilà. Et ben, le fait de dire waouh, c'est grâce à la science, à la curiosité, à l'émerveillement, et ça vient de Dieu.
Oui, moi, je voulais ajouter, quand on parle des arbres du jardin, il ne faut pas parler de l'arbre de la connaissance tout court. Il faut bien dire arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que sinon, moi je connais plusieurs personnes non chrétiennes qui disent Dieu est contre la connaissance à partir de cet arbre. Il faut bien dire, mais non, c'est la connaissance du bien et du mal. Voilà,
tout à fait. C'est pour ça que j'ai précisé, c'est la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que c'est un arbre moral, j'allais dire, éthique. Ce n'est pas un arbre sur la réflexion.
Ça a entraîné beaucoup de gens.
La réflexion, le cerveau et toutes les capacités humaines viennent de Dieu. Et c'est une merveille. C'est une merveille. Prends le micro.
Dans la suite de ce qui a été dit, ton prochain exposé sur la nature de Dieu m'intéresse beaucoup parce que Dieu nous a fait à son image. Et ça me questionne beaucoup, beaucoup. Dans ce développement-là, parce qu'effectivement, il nous a fait à son image, mais pas tant dans le physique, quoique on le présente comme des personnes, comme nous, mais c'est interrogeant tout ça, effectivement. Pourquoi, au final, de toute cette logique complètement parfaite, on se retrouve dans un corps avec deux mains, deux pieds, une tête, pourquoi lui serait sur ce physique-là? Et on comprend bien cette parenté, cette continuité, même si on n'est pas de sa nature, il dialogue avec nous par l'esprit.
Alors la Bible dit que nous sommes de sa nature d'ailleurs, mais c'est là le mystère. Et c'est vrai que la prochaine étude, elle est super intéressante à ce niveau-là, de savoir qui est Dieu finalement, comment il est. Parce qu'il y a des choses intéressantes et on explore dans l'étude, on explore un peu ce que d'autres ont exploré vis-à-vis de Dieu pour comprendre un peu des choses vraies, des choses moins vraies, des choses... je parle du judaïsme, de l'islam et tout ça, qui ont des approches, des recherches, et c'est super intéressant. C'est une étude qui est super intéressante. Il faudra que vous soyez là. Je ne sais pas quand ce sera. Hein. La prochaine fois, le mois prochain, je crois que c'est Norbert Garcia, normalement, qui vient pour une étude. Donc ce ne sera pas dans un mois, ce sera peut-être dans deux mois. Après, dans deux mois, il y aura peut-être Nicolas, donc ce sera peut-être dans trois mois, on verra. Une autre question ? Françoise.
Oui, non, c'était par rapport à l'arbre du bien.
La connaissance du bien et du mal, oui.
Parce que j'ai lu récemment, c'est connaissance du bien et du mal selon Dieu, et non pas moralité humaine.
Ah ben oui, bien sûr.
Ça, hein, c'est oui, pas moralité humaine.
Oui, non, justement.
Mais tu as dit code moral, c'est pour ça.
Le fait que Adam et Ève aient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était s'approprier pour soi... de décider ce qui est bien et ce qui est mal, de s'autonomiser vis-à-vis de Dieu dans le propre jugement de ce qui est bien, de ce qui est mal, et c'est bien plus large que ça. Dernière question ? Non ? Ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup et à bientôt.